Aujourd'hui, vous avez entendu, t'aimes et vis ce que je crois. Pratique ce que tu crois. Et on va aller directement dans le texte de Jacques 2, versets 14 à 24. Accrochez-vous, parce que c'est du lourd. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Oh, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi, si elle ne me produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Amen. Je ne sais pas si pour vous c'est facile de lire ce texte, mais pour moi en tout cas il me prend dans les tripes et je me dis « Oh, quel texte qui vient simplement révéler l'état de notre foi, révéler l'état de nos actions qui découlent de notre foi. » Jacques, demi-frère de Jésus, très proche, il a grandi avec Jésus, nous écrit ce texte. Je ne vais pas vous raconter toute la vie de Jacques, mais sachez que Jacques a mis du temps à croire que son frère était le Messie, à croire que Jésus était celui qui devait accomplir la prophétie qui était écrite dans les livres des prophètes. Au début, il doutait, il était là, non. Et pourtant, c'est lui qui deviendra, après la résurrection de son frère, le patriarche de l'église de Jérusalem, celui qui va porter l'église et qui nous écrit un des livres les plus prenants sur l'attitude du chrétien, l'attitude de ceux qui croient. Ce livre de Jacques est rempli d'informations pour nous, mais pratiques, d'informations pratiques. Parce que bien entendu, la foi est dans nos cœurs, mais l'action se manifeste. Mais j'avoue que je suis quand même surpris parce qu'on nous dit souvent on est sauvé par la foi. On est sauvé pas par nos actions, c'est la grâce de Dieu, on le lit dans Éphésiens 2, 8 et 9. Ce n'est pas par vos actions, c'est par la grâce, afin que personne ne se vante de ses actions, afin que personne ne se vante de ses actes. Donc moi je suis là, mais c'est quoi ce délire? Seigneur, pourquoi tu écris qu'un coup on est sauvé par la foi, puis Jacques nous dit que s'il n'y a pas d'œuvre, en fait ta foi elle ne sert à rien. Donc là j'avoue que je suis un peu, je ne comprends pas. Peut-être je suis le seul, est-ce que vous ça vous trouble de voir deux textes comme ça, on dit qu'on est sauvé par la foi, et d'un autre côté, Jacques nous dit, s'il n'y a pas d'œuvre, ta foi est morte. Waouh! C'est fou, hein? C'est complémentaire, nous dit pasteur Jean-Paul. Est-ce que d'autres sont là? Mais waouh, ça me trouble ce texte. En effet, Jacques vient nous interpeller profondément sur notre attitude par rapport à ce que nous croyons. Est-ce que ce que nous croyons nous implique à vivre quelque chose? Et je le répète, le titre justement aussi de ce message, « Je vis ce que je crois ». Le titre aussi de notre journée, de nos matinées avec les jeunes, « Qu'est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on le vit? Et qu'est-ce que je vis? Est-ce que je crois ?» Croire, c'est bien, mais si cela ne va pas plus loin, alors notre croyance n'est que parole et pensée, et donc elle n'est pas vivante, car elle n'est pas manifestée concrètement. Aujourd'hui, il est intéressant de voir combien la société nous influence dans notre quotidien. Et vous direz avec moi, je pense que vous êtes d'accord. On nous dit que manger sainement, c'est bon pour la santé, n'est-ce pas? Alors on le fait, ou du moins vous essayez de manger un fruit, deux fruits par jour. Certains ils veulent que du McDo, que des frites. Mais on nous dit quand même que c'est bien, donc on essaye de le faire, parce qu'on nous a dit, on y croit. Du moins, en tout cas, moi j'y crois. On nous dit que pratiquer du sport, c'est bon pour notre santé. Alors nous essayons de pratiquer du sport. Peut-être pour certains, c'est plus difficile. Mais encore une fois, vous croyez que c'est bon de faire du sport, d'avoir une activité physique, donc vous le faites, n'est-ce pas? On nous dit que faire attention aux bactéries, alors nous nous lavons les mains. Si quelqu'un a le rhume, on se dit attention, t'approches pas trop, donc on va pas trop s'approcher. On croit à ce qu'on nous dit et on agit en conséquence. En tout cas, je pense que c'est ce qu'on fait de manière naturelle. par rapport à ce qu'on lit, par rapport à ce qu'on nous dit, qui touche directement notre santé, qui touche directement notre style de vie. Nous faisons toutes ces choses que l'on nous dit parce qu'on croit qu'elles sont bonnes pour nous. Je suis certain que si je vous disais qu'il a été prouvé que manger une huître fraîche chaque matin vous permettra de ne pas prendre une ride, alors peut-être que certains directement diraient « Nico, je suis désolé, je dois te laisser, je vais aller acheter des huîtres ». Peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas, mais si vraiment c'était la réalité, je suis sûr que plusieurs personnes ici auraient déjà une cargaison d'huîtres à la maison, parce que vous n'aimeriez pas avoir des rides. Ça, c'est votre choix. En revanche, qu'en est-il de notre rapport avec la Bible ? Parce qu'on croit justement que manger, c'est bien, donc on mange, on fait attention, on fait du sport, etc. Mais quel est notre rapport avec la Bible ? Notre rapport avec la parole de Dieu ? Qu'en est-il ? Sommes-nous intéressés par son contenu et curieux de savoir ce qu'elle nous dit de faire ? Ou sommes-nous seulement intéressés de ses enseignements, de cette belle lecture, une couverture, vous avez vu, en plus très moderne, un damier vert et blanc ? Sommes-nous intéressés par la couverture ? Sommes-nous intéressés par la façon, l'orthographe, etc. ou par son contenu ? Certes, il y a de bons conseils, de bons enseignements de vie, de belles histoires, des promesses, des miracles, etc. Mais est-ce que cela est vrai ? Est-ce que nous croyons que la Bible est vraie ? Aujourd'hui, on parle avec les jeunes justement de vivre ce que l'on croit. Et vous savez, depuis un mois, depuis le début mars, le thème du mois avec la jeunesse, c'est l'apologétique, défendre ce que l'on croit. La danse que justement nos trois amis ont exprimée avant était un des versets sur lesquels on a étudié, de toujours partager la parole en une situation favorable ou non favorable, peu importe. On a étudié aussi dans ce début de mois la véracité de la Bible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce livre que je tiens dans les mains, la manière dont il a été créé, la manière dont il a été transmis de génération en génération. On parle ici de 40 auteurs. On parle d'une durée de 1500 ans. Chaque auteur ayant un vécu différent, une éducation différente, et pourtant une cohérence absolue entre la Genèse et l'Apocalypse. Je ne sais pas si pour vous, moi souvent je me dis, mais Seigneur, c'est un truc de ouf, on tient la Bible, on tient un chef-d'œuvre, un miracle. C'est juste ça, c'est le miracle. La Bible est déjà un miracle de l'avoir dans les mains. La manière dont elle a été transmise. J'ai pris une heure pour enseigner aux jeunes, justement, le premier vendredi, en montrant des textes, en montrant la manière dont l'écriture a été transmise, des plaquettes d'argile, ensuite le papyrus, ensuite le parchemin, parchemin qui a donné les codex, les premiers livres. Et vous savez que le premier livre qui a été imprimé, c'était la Bible, Gutenberg. Je ne vais pas vous faire un cours théorique maintenant, mais j'aimerais vous rappeler, la Bible est un chef-d'œuvre, non seulement dans sa beauté, mais dans la manière dont elle a été transmise jusqu'à nous aujourd'hui. On ne détient pas juste un petit conte de fées, là. On détient la parole de Dieu, transmise il y a des milliers d'années, et qui pourtant agit encore fortement aujourd'hui. Donc, on a tous conclu, en tout cas, je crois, tous les jeunes qui étaient là, que la Bible est vraie, et que son contenu aussi est vrai pour ceux qui la lisaient il y a 500 ans, 600 ans, 700 ans, et pour ceux qui la lisent aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez entendu parler de Jésus, j'espère, que c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Ça veut dire que quelqu'un a lu la Bible, parce qu'il a déversé justement son cœur à travers, dans sa parole. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on est tous d'accord de dire que la Bible est vraie. Est-ce qu'on est d'accord ? Mais c'est encore bien plus intéressant, car la parole est plus qu'un livre tangible, elle est une personne. Et cette personne est la vérité, et la vérité nous libère, elle nous donne la vie. Amen. Ça vous rappelle un petit verset ? J'aimerais juste qu'on mette Jean 1, 1 et Jean 1, 14. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et un peu plus bas, vous pourrez relire ce texte, il est tellement beau, Jean 1. Et ensuite au verset 14, et la parole a été faite chair, et là j'ai rajouté Jésus, hein, parce qu'on sait que c'est la parole qui a été faite chair, c'est Jésus. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui, comme ça vous le savez. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Waouh, dans ces deux versets, on a que la parole est Dieu et que la parole a été faite chair en Jésus, qui a toute la gloire et qui est le Fils unique de Dieu. Donc la parole est Dieu et la parole est le Fils unique, donc Jésus est la parole vivante. Waouh, waouh, cela devient vraiment passionnant, car nous voyons que dans la Bible, nous avons la possibilité de connaître Jésus, qui est la parole de vie. Je me dis, ça devient un livre vraiment intéressant. En plus, qu'il est vraiment, en plus, il nous donne connaissance de Dieu, du Fils de Dieu lui-même. J'espère que vous avez envie de lire votre Bible juste maintenant. Réalisons-nous seulement l'ampleur de cette vérité. La Bible est la parole de Dieu incarnée en Jésus qui est dans nos mains pour nous mener à la vie éternelle. Le message de Dieu, par son Fils, la parole, il a vécu et ensuite il nous donne sa parole. Quel cadeau! Quel cadeau! Donc on récapitule rapidement. Nous croyons que la Bible est vraie, n'est-ce pas? Ok, excellent. Nous croyons que la parole a été au commencement et qu'elle était Dieu. On vient de le lire. Mais si on croit à la parole, donc on doit croire à ce que je viens de dire. Ok, excellent. Et nous croyons que la parole s'est faite chair en Jésus pour nous apporter la vie. Amen. Ok, donc on peut avancer tous ensemble. Donc j'ai envie de dire, génial, donc on peut dire qu'on a la foi. C'est la première étape, on a la foi. Donc on peut dire on est sauvé, en tout cas par notre foi. C'est bien. Donc on a passé le test théorique. On a la foi, c'est la théorie. Il est assez motivant de chercher à suivre Jésus dans ses enseignements, mais souhaitons-nous réellement l'imiter? Souhaitons-nous réellement pratiquer la parole? Souhaitons-nous réellement appliquer ce que Jésus nous dit dans son enseignement? On a la foi, mais est-ce que maintenant on a envie de passer à la pratique? Est-ce qu'on croit seulement que Jésus est le seul chemin à suivre? Dans le verset 19, justement, du texte que j'ai lu de Jacques 2, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Waouh! Même les démons, justement, ils diront « Oh, voici le Saint de l'Éternel !» Ils le savent, il n'y a qu'un seul Dieu. La Bible nous dit que Jésus est Dieu et qu'il est venu pour nous sauver, nous montrer la direction à suivre et la manière de vivre. « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je pourrais encore en dire des versets, il y en a tellement, où Jésus montre qu'il est Dieu, que seulement par Jésus nous accédons à la vie éternelle. C'est celui qui nous amène vers son Père. Durant tout son ministère, Jésus va enseigner ses disciples à vivre selon son exemple, à prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, à guérir les malades, à se laver les pieds les uns les autres, ou pourrais-je dire à se servir les uns les autres. À se servir les uns les autres. Est-ce qu'on se sert les uns les autres ici à l'église déjà? Il ne leur dit pas « Regardez-moi et prenez des notes, puis étudiez vos notes, faites-moi un beau rapport, dites-moi comment vous avez apprécié ce que j'ai fait ici, dites-moi si c'était bien, dites-moi si j'avais une bonne... est-ce que mon ton de voix était bien? Est-ce que je parlais trop doucement ?» Non, non. Il leur dit « Ne restez pas dans la théorie, mes amis. Ne restez pas dans la théorie. Ne restez pas dans une foi inerte. » Il leur dit « Mettez en pratique ce que je vous enseigne. » Il leur donne des instructions précises de la manière de vivre selon son modèle. « Pardonne à ton prochain, 7 fois, 70 fois, mais Jésus, t'es ouf! Combien de fois je dois pardonner? T'as vu le gros truc qu'il m'a fait? Si je lui pardonne une fois, c'est déjà pas mal. Aime celui qui te persécute. Bénis, quoi, celui qui te persécute. Aime celui qui te maudit. Hé, Jésus, reviens sur terre. T'as vu comment c'est ici? » Et il leur enseigne de prendre soin des orphelins, prendre soin des veuves. Vous lirez un peu plus tard, un peu plus ce texte de Jacques. Il dit, c'est quoi la vraie religion? C'est pas proclamer des belles paroles. C'est pas prier 3 heures par jour. C'est pas jeûner pendant une semaine. C'est agir en fonction de ce que Dieu produit dans notre cœur. Le disait Simon il y a pas 5 minutes avant. Est-ce que le salut, est-ce que la réalisation que Jésus a donné sa vie te pousse à changer d'attitude, t'emmène sur un chemin différent? Le chemin de la vie éternelle, ou est-ce qu'il reste simplement « Oh, c'est un beau texte que j'ai lu, je le lirai encore à mes enfants, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de le mettre en pratique. La foi suffit. » Non, non, il les encourage. Chacun des enseignements de Jésus vient directement nous interpeller dans notre vie personnelle. En effet, l'enseignement de Jésus, elle n'était pas là pour nous consoler, il était là pour nous transformer et nous challenger radicalement, radicalement. Il vient nous interpeller aux tripes. Quand on lit le sermon sur la montagne, quand on lit d'être disciple, ça veut dire porter sa croix. Celui qui ne haït pas sa maman, son frère, sa sœur ne peut pas être mon disciple. Mais qui enseigne de cette manière? Est-ce que vous entendez des fois les pasteurs dire ça? Si c'était le discours chaque fois, chaque dimanche, je pense qu'il n'y aurait plus beaucoup de personnes dans l'église. On dirait, ouais, quand même, encourage-nous un peu, pasteur. Encourage-nous un peu, pasteur. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il le dit lui-même, « Nul ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. » Il n'y a personne qui prend la vie à Jésus, il n'y a personne qui lui dit quoi faire. C'est lui qui dit, « Moi, je vais te donner ma vie, parce que je t'aime. Et je vais tout te donner. Je vais te servir, je vais aller vers toi. Je vais appliquer ce que mon père me dit de faire. » Il avait la foi en son papa. Il a appliqué, il a fait, « Je fais la volonté de mon père. » Les disciples étaient eux-mêmes challengés dans leur mode de vie, je pense, alors même qu'ils étaient à côté de Jésus, on l'a vu, ils étaient chaque fois, « Mais Seigneur, mais tu nous demandes de faire quoi? De nourrir 4000 personnes? On a 5 pains, 2 poissons, mais hé, reviens !» Ils étaient là, ils disaient, « Comment ?» Ils étaient challengés dans leur foi, mais aussi, ils étaient convaincus que seul Jésus était le chemin à suivre. « Où irions-nous, car tu as les paroles de la vie? Vers qui irions-nous » Est-ce qu'on est convaincu de cette réalité aujourd'hui, de cette vérité? Comme disait justement Gordon, pas de la réalité que nous voyons, de la vérité que Jésus est le seul chemin. Que lui détient les paroles de vie et que lui a acquis la vie éternelle pour nous. Parce que sa foi l'a amené à la croix, pour nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comme disait Simon, la croix est vide, mais il a quand même dû aller jusqu'à là. Il a quand même dû payer le martyre pour nous, il a quand même dû être crucifié. Sa foi était vraiment active. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a pas plus bel amour que donner sa vie à ceux qu'on aime. Mais heureusement, autant l'enseignement de Jésus est révolutionnaire et magnifique et très difficile à appliquer, il nous donne un encouragement et dit « Vous inquiétez pas, je vous envoie le Consolateur, je vous envoie the Spirit, je vous envoie mon esprit. » Parce que ce n'est pas par ta force que tu vas y arriver. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intellect, ce n'est pas par tes beaux muscles, ce n'est pas par ta chemise, ce n'est pas par ton compte en banque, comme disait aussi Simon. C'est par mon esprit qui vit en toi parce que je suis mort et je te le donne. Pour que tu puisses vivre la vie que j'ai vécue sur terre, mais maintenant c'est vous qui devez la vivre. Parce que c'est à travers vous que je veux amener mon royaume. C'est à travers nous. Je ne sais pas si on se rend compte de cette chance et de cette responsabilité, mais de cette chance que Dieu souhaite. On est les serments, il est le cep, mais on est les serments. Sans les serments, il n'y a pas de fruits. Il veut porter les fruits avec nous. Vous vous rendez compte de cette chance? Donc il ne nous reste plus qu'à passer de la théorie à la pratique. Si nous croyons, alors obéissons à ses commandements et agissons. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement, dans le verset 24 de Jacques 2. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui a vécu une rencontre radicale avec Jésus. Et je prendrai justement, je vois aussi mon ami qui est là, Victor. Je ne crois pas qu'on voit quelqu'un qui a rencontré Jésus rester le même. Je ne connais personne autour de moi. Je vois les 3 jeunes qui étaient là, qui sont justement Tiziana, Maxime, Gerson. Depuis qu'ils viennent à l'église, depuis que Jésus a touché leur cœur, ils ne sont plus les mêmes. Allez leur poser la question. La vie a changé. Il y a une transformation réelle. Parce que maintenant, ceux qu'ils croient commencent à prendre la forme d'une action, à les motiver à quelque chose. La conscience de l'œuvre de la croix vient ébranler tout notre système de pensée et nous conduit naturellement vers l'imitation de celui qui nous a tout donné. Lorsque nous croyons en la vérité de Jésus, nous voulons non seulement en savoir plus à son sujet, du moins j'espère que c'est votre souhait, mais nous voulons surtout le faire connaître et vivre pour lui. Abraham connaissait Dieu, il aimait de tout son cœur. Il n'avait pas la parole, mais il avait une relation personnelle avec Dieu. Et je pense une relation vraiment précieuse, qui l'a amené à quitter, à tout quitter, et qui l'a amené à donner son fils. Son fils qui incarnait la promesse que Abraham allait être le père de nombreuses nations, pas en Ismaël, en Isaac. Et là, Dieu lui dit, hey, va donner ton fils. Abraham, il a dit, pardon, attends, je n'ai pas réglé mon truc là. Non. Qu'est-ce que t'as dit, Dieu? Va donner ton fils, Isaac, celui de qui va naître les nations nombreuses. Ok, tu l'as dit, j'y vais. Abraham a été. Il a dit, je sais. Si c'est ta promesse, je sais que ta promesse va s'accomplir. Parce que tu es le Dieu du oui et amen. Tes promesses sont oui et amen. Alors je sais que tu vas pourvoir. Et Abraham, il part tôt le matin. Je relisais ce texte dans Genèse justement. Tôt le matin, il part. Tôt le matin, c'est pas, oh Seigneur, laisse-moi encore un moment avec Isaac. Tôt le matin, il est là. J'y vais. Je vais parce que je suis convaincu que Dieu va répondre. Mais j'y vais tôt le matin, je suis persuadé que la parole de Dieu va s'accomplir. Je sais que ce que Dieu dit s'accomplit. Alors il part et va offrir son fils, il le met, et là il lui dit non, attends, et Dieu va pourvoir. Oui, nous sommes sauvés par notre foi en Jésus et non par nos actes, c'est une vérité. Mais lorsque nous sommes sauvés, nous sommes transformés par l'amour de Dieu qui nous pousse à agir. C'est son amour qui nous pousse à agir. Parce que c'est son amour qui nous identifie, c'est son amour qui a payé à la croix, c'est son amour justement qui nous pousse à aimer les autres. Aimer d'abord Dieu, c'est le premier commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ensuite, aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que Dieu a fait en Jésus pour nous, afin que nous puissions faire la même chose pour ceux qui sont autour de nous. C'est bien de venir à l'Église, mais est-ce que ceux qui sont en dehors de l'Église savent que Jésus vit en vous ou pas? Est-ce qu'ils le savent? Notre foi devient notre mode de vie, le moteur de nos actions. Elle nous conduit à marcher sur l'eau et à pratiquer les enseignements de Jésus. Vous avez la foi? Alors montrez-moi vos actes, nous dit Jacques. Ma foi va me conduire vers ce que Jésus veut toucher. Mais si la main ne se déplace pas, comment Dieu va pouvoir toucher? Vous êtes les mains, vous êtes ses pieds. Mais si la main ne bouge pas, la parole n'agira pas. J'aimerais terminer en vous racontant le témoignage d'un missionnaire qui est parti dans un pays du Nord Afrique, envoyé par son église, comme ici. Seigneur, on sait que tu dois l'amener dans ce pays. Le missionnaire, plein de feu, j'y vais, je pars. Il arrive dans ce pays, il essaye d'apprendre la langue, difficile, il n'arrive pas. Il essaye de communiquer l'évangile, il n'arrive pas. Une année passe, pas de conversion. Une deuxième année passe, toujours rien. Mais il est là, il continue de lutter. Rien à faire, la langue ne rentre pas. Mais ses actes continuent de manifester l'amour qu'il a pour Dieu et pour son prochain. 3 ans passent, 4 ans passent, 5 ans passent, rien. Pas de conversion, 2, 3, mais rien par rapport à son investissement. Il revient un peu déboussolé, toujours en contact avec l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Église un peu dépitée. On croit qu'il y a vraiment quelque chose là-bas. Retourne-y. Il y va, j'y retourne. Motivé, il retourne, il continue. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Après 10 ans, il commence quand même à dire, Seigneur, j'en peux plus. L'Église aussi est un peu dépitée. Il revient et il va quitter l'Église, il va s'éloigner. C'est une vraie histoire ce que je vous raconte. Et l'Église va dire, on croit, Seigneur, qu'il y a encore quelque chose. Le Seigneur va, par son esprit, va dire, envoyez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va partir. Et cette personne, après même pas 2 mois, elle comprend la langue. Elle commence à communiquer l'Évangile. Et là, des dizaines et des dizaines de personnes viennent écouter l'Évangile, donnent leur vie à Jésus. Ce missionnaire qui vient d'arriver dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mes cheveux roux? Est-ce que c'est mon look? Et lui disent, non, 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 ça fait 10 ans. Qu'on regarde quelqu'un vivre ce que tu viens nous expliquer. On peut applaudir, parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Aujourd'hui, si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur et agis selon les commandements de Jésus. Moi, je vous encourage vraiment à ne pas laisser justement la parole inerte. Vous croyez, alors agissez. Et Dieu fera le reste à travers vous. Amen.